Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième fois pour notre format Au bord du bassin, où on retrouve Claire, les pieds dans l'eau, qui va nous parler de son expérience de jeune diplômée. Elle nous expliquera à quel point c'est important de bien se connaître pour pouvoir trouver un emploi et une entreprise qui nous correspond. Bonne écoute!
Du coup, je présente rapidement Claire avant de lui laisser la parole. Du coup, Claire, elle est diplômée UM Lyon aussi, diplômée 2018. Alors, c'est une personnalité qui a un parcours vraiment très intéressant et surtout qui lui a permis de développer une philosophie vachement riche et vachement puissante que elle nous donne la chance de pouvoir nous partager ce soir. Ce qui est intéressant dans le parcours de Claire, c'est que dès son entrée à l'UM, en fait, elle a senti un fort attrait pour la fonction RH. Au cours de son parcours, elle a participé au programme Company Inside, qui consiste en fait, ça fonctionne sur un mode d'alternance avec un rythme de 4 semaines en entreprise et 1 semaine en école. Alors, ce qui est bien, c'est que ça lui a permis de toucher à plein de fonctions très différentes. Pas forcément très focus RH, mais bon, ça avait au moins l'intérêt de pouvoir tester plusieurs choses. Et en fin de diplôme, une période quand même d'incertitude et de grands questionnements s'est mise en place. Donc, elle va nous raconter cette période qui était particulière pour elle et qui permet aussi de briser pas mal de conceptions qu'on peut se faire sur comment ça se passe à la sortie d'école. Et qui, de fil en aiguille, a réussi à trouver une entreprise avec laquelle ça fit au top.
qui ça a pris Fonction 2 ans.
Super. Ça a pris 2 ans. Mais dans laquelle aujourd'hui ça fit, ça s'appelle Fonction Support. Et au sein de Fonction Support, tu es chef de projet. Donc, je te propose de nous raconter tout ça en partant, du coup, de la période fin des études, début de la vie active.
C'était il y a fort longtemps. Non, en vrai, moi, je me rappelle, juste avant d'être diplômée, ça s'est terminé par le PFE. Je ne sais pas si ça existe toujours, j'imagine
si,
que oui.
Si.
Orienté RH. Mais allez, quand j'ai commencé le PFE, je ne savais pas forcément que je voulais me relancer dans ça. Au moment du diplôme, j'ai surtout ressenti un énorme vide. Parce que tu te dis, maintenant... qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire que jusqu'ici, dans les études supérieures, c'était toujours facile de suivre la logique de « on garde le maximum de portes ouvertes ». Donc, on fait un bac généraliste, on fait une classe prépa, on fait une école de commerce et pendant tout au long, même pendant l'alternance, comme tu l'as dit, Angéline, j'ai testé plein de choses différentes dans l'idée je ne me ferme pas de porte, on continue. Vient le moment du diplôme, il faut commencer par fermer des portes quand même et faire un choix. Ouais, fermer des portes, ce n'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, prendre une décision. La décision que j'avais prise au début, du coup, c'était de me dire, là, j'ai fait plusieurs fonctions support, j'ai découvert ce que c'était la DSI, j'ai découvert le service financier. Pourquoi pas revenir à la RH ? En soi, j'ai eu qu'une seule petite expérience, c'était mon stage de pré-master en recrutement toute petite. C'était mon projet quand j'avais rejoint l'EM Lyon. Et en soi, le blabla que j'avais sorti dans mon entretien de personnalité pendant les concours était vrai. C'est-à-dire que moi, la RH, ça m'intéressait parce que je me disais, la plus grande force d'une entreprise, la plus grande force d'une organisation, c'est son capital humain, c'est l'homme. C'est-à-dire que même si tu as la machine la plus avancée au monde, si tu n'as pas le gugus derrière pour l'opérer ou pour la réparer, tu vas pas bien loin. Je me dis, go la RH. Ce qui s'est passé, c'était j'étais un peu perdue. J'ai assez tôt, sous les conseils de mes parents, pris rendez-vous avec l'APEC. J'avais un conseiller, je lui ai présenté mon CV, mon projet. Dans l'idée, vu que je voulais faire de la RH, il m'a conseillé de commencer par du recrutement parce que très sincèrement, et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui, 90% des offres d'emploi dans le domaine de la RH, quand tu es jeune diplômé, c'est du recrutement. Parce que sinon, c'est soit ils demandent 5-6 ans d'expérience minimum, que je n'avais pas, du coup, soit c'était du conseil à Paris. Et à l'époque, moi, je m'étais dit, je ne veux pas de Paris. et je ne veux pas faire de conseils. Ça m'a fermé pas mal de portes. J'ai dit que j'étais pas dans la logique de fermer les portes, mais si, en fait, totalement, j'avais pas le recul à l'époque pour m'en rendre compte. Pourquoi pas Paris? Pourquoi pas le conseil? Moi, dans l'idée, c'était une vision un peu utopiste. Je me dis, moi, je veux entrer dans une entreprise et la faire grandir de l'intérieur. Donc, je veux pas faire du conseil où je vais tourner dans différents. Et puis, je voulais aussi un peu de stabilité que dans ma tête, le conseil ne pouvait pas proposer. À côté de ça, j'avais des amis qui avaient des projets très clairs dans la culture, dans plein de secteurs d'activité différents. Moi, j'étais un peu en mode YOLO au milieu, je savais pas trop ce que je faisais. Qui plus est, j'ai été diplômée un peu en avance par rapport à ma promo. Donc, j'avais pas non plus trop de référentiel sur lequel je pouvais me baser. Et donc, cette période de non-activité a duré pas mal de temps parce que je gérais un peu. Pour l'histoire, j'avais tellement honte de toujours pas avoir trouvé que j'ai ghosté mon conseiller APEC parce qu'en gros, il m'avait envoyé un mail pour me demander comment ça allait. Parce qu'au début, ça allait bien, j'avais des entretiens, ils aboutissaient pas, mais j'avais des entretiens, ça commençait bien. Et puis, ça se concluait jamais. Donc, il y avait une période de découragement et puis, je sais pas, le conseiller APEC qui me demandait des nouvelles, pour moi, c'était remuer le couteau dans la plaie, donc je n'ai jamais répondu, le pauvre. Je pense que si je le recroise un jour, je lui dirais « Désolée, je n'étais pas dans le bon état d'esprit. Maintenant, ça va bien. Comment allez-vous ?» Mais bref, on n'en est pas encore là. Et je pense qu'il y a beaucoup aidé, et on en avait parlé, Angéline, c'est de trouver un système de soutien. Et de pas vous... Avec du recul, il n'y avait pas à avoir honte, c'est juste qu'effectivement, on a les chiffres de l'EM en tête. Genre, je ne sais pas ce que c'était les chiffres, mais les gens, ils trouvent rapidement, ils ont tel ou tel salaire. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent, qui voudront aller dans le recrutement. Le recrutement, ça ne paye pas très bien. Donc, clairement, les salaires reflétés par l'EM, c'est ceux qui vont dans les sociétés de conseil de strat, les top 3 ou bien des grands cabinets de conseil qui payent très, très, très bien. En recrutement en général, ce n'est pas trop le cas. Si j'ai le temps, j'ai raconté une anecdote assez drôle que j'ai eue en entretien où j'ai annoncé le salaire que je voulais et par rapport au salaire qu'ils proposaient, ce n'était pas trop ça. Mais pour revenir au système de soutien, du coup, même s'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec le projet, parce que mon père, il rêve toujours que j'aille en finance, d'ailleurs, parce que ça paye très bien, ils m'ont quand même rassuré en disant que c'est normal, en fait, d'avoir du temps d'inactivité en sortie d'études ou même entre les différents postes. Mon père, il est très qualifié, il a eu des postes à haute responsabilité, mais n'empêche qu'il a quand même eu des mois de chômage entre deux postes parce que c'est normal. On n'en parle pas trop, mais c'est normal d'être au chômage et c'est normal de ne pas trouver. Et pour ceux qui n'auraient pas forcément une famille qui est aussi cool que mes parents, on va dire, il y a les amis, donc... J'ai pu en parler à mes amis et ça fait énormément de bien parce que tu te rends compte que t'es pas la seule paumée. T'es pas la seule paumée. Les doutes que moi j'ai, c'est des doutes qui sont très présents chez les autres. On entend souvent plus ceux qui parlent fort, donc ceux qui réussissent. Parce que c'est aussi les histoires qu'on en vient d'entendre. Enfin, je pense que c'est déprimant d'entendre à longueur de journée « j'ai peur, j'ai échoué, je sais pas où je vais, au secours !» Mais dans les moments où c'est un peu bas, en tout cas, c'est toujours bien de se rendre compte que tu n'es pas seul, parce que tu te rends compte qu'en fait, t'es normal. Et moi, la normalité, personnellement, ça ne fait pas peur. Donc, c'était rassurant, en tout cas, de savoir que j'étais pas seul au monde, comme on peut se le sentir quand on est triste. Et j'ai quand même fini par trouver. Je me suis mis un coup de pied aux fesses et j'ai fini par trouver du recrutement, du coup, dans une société de services. Ce qui m'avait fait choisir ça à l'époque, ce qui avait fait que ça avait abouti, c'est que le courant était super bien passé pendant le processus de recrutement. C'était des personnes jeunes qui m'avaient interviewé, on avait rigolé pendant l'entretien, ce qui ne m'était pas arrivé avant. Je reviens sur l'aspect jeune. C'était un truc aussi que je voulais, c'était avoir une bonne ambiance au travail, parce que pendant mon alternance, j'étais qu'avec des vieux, pour le dire assez simplement. Et du coup, j'avais pas vraiment réussi à tisser des liens, même si tout le monde était très gentil, tout le monde était toujours très sympa avec moi. Mais ouais, il n'y avait pas d'atome crochu et... bah, j'allais au travail sans forcément ressentir un grand plaisir. Donc, je suis contente. En tout cas, j'étais très contente au début. C'était un rythme rapide, c'était très stimulant, j'apprenais. Parce que ma dernière expérience de recrutement datait d'il y a plus de 2 ans. Donc, je le voyais vraiment comme une porte d'entrée dans la RH. Je dirais que la phase de lune de miel a duré quelques mois. Et puis après, j'ai trouvé ça usant, en fait. J'ai trouvé ça... Comment dire ? Même s'il y avait quelques projets annexes à côté, on était vraiment... Enfin, en société de service, quand tu es dans du recrutement, tu es vraiment sur le volume, le chiffre. En plus, c'est un secteur de l'informatique, c'est ultra compétitif. Du coup, je parlais de ghoster tout à l'heure. Toi, tu te fais ghoster de ouf quand t'es dans le recrutement en informatique parce que tu es sur des personnes qui se font harceler limite toute la journée parce que c'est des profils très demandés. Et vu que c'est dur de choper des gens, ben faut caler le plus d'entretiens possible. Et moi, je pense que le déclic, ça a été au moment où je me rendais compte que je me souvenais pas du candidat que j'avais vu hier, quoi. Tellement je voyais de personnes. Et c'est pas comme ça que je voyais la fonction de la ressource humaine, des ressources humaines. Donc voilà, j'ai vite vu la limite. Et je dis pas que c'est pas une bonne chose, hein, le recrutement. Ça peut plaire à certaines personnes. Moi, je pense juste que j'ai pas assez la fibre commerciale ou la fibre de l'objectif chiffré pour que ça puisse me stimuler sur le long terme. C'est comme je me suis rendu compte du coup. En plus, j'étais pas la seule parmi les collègues à une petite vague de départ à un moment. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est de mon côté, le discours que je vendais aux candidats, c'est-à-dire quand vous devenez consultant, vous découvrez plein de secteurs d'activité différents. C'est l'occasion de... Même si une mission vous plaît pas, au pire, elle se termine et on fait une autre mission par la suite et peut-être que celle-là vous plaira plus. Ça me parlait finalement. Moi qui ne disais pas du tout le conseil, je me suis posé la question, finalement, est-ce que la RH c'est pas ce que je voulais? Parce qu'en soi, ce qui me plaisait dans la RH, c'était de découvrir quelque chose de nouveau, c'était des thématiques qui me plaisaient, mais je retombais sur la logique de porte ouverte pourquoi pas enfermer après, mais je me rouvrais des portes et le monde du conseil, ça le faisait. Il s'avère que j'avais l'opportunité de le faire, de basculer en fait du poste de recruteuse à consultante, plus orientée gestion de projet. Et ça me plaisait d'autant plus que le recrutement en société de service est ultra répétitif aussi. Donc si tu n'aimes pas les chiffres, encore une fois, tu peux pas. Ça peut pas aller à la longue. Donc plus orientée gestion de projet en informatique. J'ai trouvé une mission très très rapidement dans une grande entreprise pharmaceutique. Donc j'ai découvert le secteur de la pharma. C'était ma première expérience aussi en grande entreprise, avec tous ces process, toutes ces normes, surtout en pharma. Je me rappelle une des premières choses qu'on m'a dit, parce que j'ai travaillé sur une application industrielle. On prend ça très au sérieux, parce que s'il y a un couac ou une erreur, potentiellement il y a des gens qui meurent derrière. Et tu fais ah ouais, je comprends, ok, on va prendre ça au sérieux. Et c'était cool. C'est une mission qui était assez courte, elle a duré 6-7 mois. Je pense pas que j'aurais fait ça très très longtemps si ma mission n'avait pas évolué, mais il s'avère qu'il y avait des coupes budgétaires, donc de toute façon j'avais pas le choix, je suis retournée à ce qu'on appelle l'intercontrat, donc ce qui se passe quand tu es en attente de mission, donc entre différents contrats. Et moi j'étais trop chaude pour commencer une nouvelle mission, découvrir un nouveau secteur d'activité, pourquoi pas la grande distribution, pourquoi pas le secteur des transports, enfin il y avait plein de possibilités. Ça ne s'est pas fait parce que je suis restée super longtemps en intercontrat. On était beaucoup de consultants en attente de mission et les commerciaux étaient un peu à la ramasse. Donc, j'ai commencé à chercher ailleurs. Toujours la logique de porte ouverte. Je me suis dit, soit de la gestion de projet, soit pourquoi pas revenir à la RH. Hein. Finalement, maintenant que j'ai fait un an en recrutement, c'est pas déconnant d'y retourner. Et je me rappelle, j'avais fait une recherche sur l'APEC, le site de l'APEC. Et j'ai tapé RH, région Rhône-Alpes. Et je vois Project Manager RH. Donc là, je me dis, c'est trop beau, c'est le destin, allez, on postule. Enfin, au pire, je perds rien au postule. Et au pire, c'est nul. Au mieux, c'est trop cool. Voilà. Donc j'ai écouté mon instinct. Je dirais qu'une de mes plus grosses forces, c'est que je me connais bien. Donc je savais que c'était un. On y reviendra plus tard, mais je me connais bien. Je connais bien mes qualités, je me connais très bien, un peu trop bien mes faiblesses. Mais du coup, avec fonction support, au fur et à mesure que le processus avançait, je sentais que c'était bon. Je sentais que ça allait matcher. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait du recrutement, mais je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait passer des entretiens, avoir été de l'autre côté, qui fait que je décèle mieux quand les gens font genre ou quand les gens sont sincères. Mais moi, ce qui m'avait vraiment frappé lors de ce processus de recrutement, c'est tous les interlocuteurs que j'avais eus, c'est-à-dire la personne au début. C'est une boîte qui a été fondée par deux personnes. Donc, j'ai eu les deux cofondateurs, plus le directeur de l'agence dans laquelle je me situe, qui est à Lyon. C'est vraiment la transparence et la sincérité qui est ressortie lors de ces entretiens. Et aussi une humilité, c'est-à-dire que tu sentais que les gars étaient capables de se remettre en question, qu'ils étaient capables de se questionner, de complètement changer s'ils avaient tort. Et ça, c'était nouveau pour moi, parce que jusqu'ici, dans ma courte expérience professionnelle, c'était beaucoup la politique d'entreprise, il y avait beaucoup de langue de bois, où faut faire semblant, parce que tu vois, tu es dans un environnement professionnel et tu ne peux pas te permettre de montrer trop de... Authenticité, ce n'est pas le mot, mais trop de faiblesse, quelque part. Parce qu'il faut être fort et il faut être pro. Mais ouais, du coup, j'ai signé. Pour faire court, fonction support, qu'est-ce qu'on fait ? Le slogan, le projet derrière, c'est d'accompagner les hommes et les organisations dans leur transformation. Concrètement, comment ça se traduit ? Ça se traduit de mon côté, en tout cas par la gestion de projet sur des sujets stratégiques dans des entreprises de petite taille, donc des PME, des startups ou des ETI. Donc en général, on travaille directement avec les dirigeants sur des sujets. Donc moi, c'est plutôt orienté RH et aussi une double casquette organisation. Donc ça peut être sur des certifications, des certifications ISO 9001, ISO 23001. Enfin, c'est plutôt orienté qualité, sur de la restructuration de processus commercial, de processus de vente, de processus d'organisation de manière générale, hein, la chaîne de valeur dans une entreprise. Ça peut être des processus de recrutement, des processus RH. Là, en ce moment, je travaille sur des projets de GPEC, de gestion de prévisionnelle d'emploi et de compétences. Donc, c'est très varié. Et en faisant en prenant du recul, c'est clairement, ça correspond à la fois à ce que je recherche maintenant, c'est-à-dire l'apprentissage. Moi, je veux apprendre, je veux aller au travail et pas faire la même journée jour après jour, ce qui était un peu le cas quand je faisais du recrutement, découvrir des domaines différents. Enfin, là, en gros, chez Fonction Support, on fonctionne en multi-projet. C'est-à-dire que quand on vend, contrairement à une société de conseil, on va dire, quand on vend quelque chose à un client, on vend un projet. Donc, on va dire, OK, ça, c'est votre besoin et on va vendre un projet, disons, de 30 jours. Et derrière, c'est un chef de projet qui va mener les 30 jours, mais disons, ça peut être 30 jours étalés sur 6 mois ou ça peut être 10 jours étalés sur 3 semaines. Ce qui veut dire que sur une semaine, je peux intervenir chez 1, 2, 3, 4, voire 5 clients différents, ce qui est super stimulant. Moi, je ne pensais pas que j'aimerais faire ça. Il y a des ans, clairement, tu me dis que je faisais ça. Je te dis, mais t'as fumé. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir 5 clients différents dans la semaine. Mais ouais, cette volonté d'apprendre et de découvrir plein de secteurs d'activité différents. Enfin, j'ai des clients dans la monétique, dans le commerce de gros, enfin, dans la... J'ai un client qui est expert en moisissure, enfin, j'adore, c'est super stimulant. Donc ce côté apprentissage peut être check. J'en avais pas parlé tout à l'heure, mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est chez Solutech, j'ai mentionné l'entreprise, c'est pas grave, mais en tout cas, là où je faisais du recrutement, c'est que c'était pas en accord avec mes valeurs. Aucun jugement sur les valeurs, la preuve, l'entreprise existe toujours, donc clairement ça va à d'autres personnes, aucun jugement, c'est juste que moi clairement ça m'allait pas, ce côté plus sur le chiffre, ce côté plus sur le résultat. Et du coup je m'étais dit que ma prochaine expérience, ce serait bien que ce soit le cas. Après, effectivement, en tant que consultante, ça aurait pas été trop grave, pour la même raison que au pire t'aimes pas la mission, tu passes à une autre mission après, tu auras appris quelque chose pendant la mission, ce sera toujours utile pour la suite. Mais là, il s'avère que c'est une entreprise complètement en accord avec mes valeurs. Donc, il y a une culture d'entreprise très, très forte. Ils sont complètement sur la bienveillance, sur un truc que j'aime bien, une des valeurs, c'est l'audace, c'est-à-dire ils veulent que les gens osent. Et du coup, la bienveillance, ça va à côté. Parce qu'ils disent, on ne peut pas demander aux gens de prendre des risques et d'oser. Et si jamais ils se plantent, de leur dire, c'est pas bien. Donc, et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on m'a dit, Claire, toi tu vas faire des erreurs, moi je serais bienveillant envers toi, Mais moi, en tant que manager, c'est sûr, je vais faire des erreurs avec toi aussi. Donc, je te demande aussi d'être bienveillante par rapport à toutes les merdes futures que je vais potentiellement faire. Et on retrouve ce côté d'humilité, effectivement. Enfin, toutes les choses que j'avais ressenties durant le processus de recrutement, elles se sont complètement traduites dans la réalité. Et ça correspond aussi à ce que je recherchais avant, à savoir la bonne ambiance, des collègues, une entreprise jeune. Comme je l'avais dit, on a une culture d'entreprise très forte, on prend le petit-déj ensemble, on prend des pauses ensemble, on fait des choses en dehors, mais là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais même avec le Covid, enfin, les petits-déj, du coup, on continue à les prendre, mais à distance via Zoom, on prend des pauses régulières et l'idée, c'est de pas perdre le lien très, très fort qu'on se tisse, justement, dans l'idée. Et ça, c'est une autre chose où je rejoins complètement, mais il n'y a pas tout le monde qui sera d'accord avec nous, je pense. C'est l'idée que la vie pro et la vie perso ne sont pas complètement dissociées. Donc, je ne dis pas en mode tu travailles le soir alors que tu as terminé ta journée de travail, mais c'est plus la philosophie qui est que ben, si ça se passe bien dans ta vie pro, ben, ça va impacter positivement ta vie perso. Et inversement, si ça se passe bien dans ta vie perso, ça va impacter positivement ta vie, ta journée de travail. Et dans l'autre sens, si c'est la merde dans la vie perso, ben, tu vas être moins concentré au travail, enfin, ça va forcément impacter. Et inversement, t'as passé une mauvaise journée au travail, ben, tu vas rentrer chez toi de mauvaise humeur. Enfin, les deux, ça impacte forcément. Et du coup, on apprend à être très proche de nos collègues. Enfin, moi, je connais leurs projets, je connais les noms de leurs enfants, combien ils en ont, leurs envies, leurs craintes, leurs peurs, leurs envies, leurs ambitions. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui est assez nouveau parce que je connaissais mes collègues dans mon entreprise avant, mais pas tous déjà. Et il y avait quand même une certaine distance avec le management. Le management qui n'était pas du tout dans l'optique de la communication, qui n'était pas du tout dans l'optique du partage. Et c'est une position qui se défend, hein, c'est-à-dire que certains veulent vraiment avoir la scission vie pro, vie privée, et je ne juge pas. C'est juste quelque chose qui ne me convient pas. Et du coup, je suis contente. En tout cas, aujourd'hui, chez Fonction Support, ça a même surpassé mes attentes. Franchement, je me suis découverte des forces et des ambitions que j'avais pas. J'ai un changement de perspective, c'est-à-dire que plus tôt, j'avais dit que Paris, je voulais absolument pas. Et maintenant, je me rends compte, c'est juste que ça me faisait peur, Paris, parce que c'est une grande ville. Potentiellement, forcément, le confort de vie tombe un peu parce que la vie coûte plus cher. Donc là, j'ai un appart assez grand. Bah, à Paris, c'est sûr que si tu vas... l'appart, il est un peu plus petit, ce genre de choses. Mais quand je parle de changement de perspective, c'est que maintenant, plutôt que de me dire... Enfin, maintenant, je me dis pourquoi pas, en fait, tant que je n'ai pas testé, tant que je ne le fais pas, bah, je ne sais pas si ça me plairait ou pas. Au pire, je vais à Paris ou une autre ville. Hein, je dis rien, mais au pire, je quitte Lyon. Je me rends compte que je déteste ça. C'est absolument pas fait pour moi, mais au moins, je saurais que c'est pas fait pour moi, quoi. Et voilà, tout ça, alors que, enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir rejoint une aventure à la fois au niveau du métier, au niveau de l'entreprise. Enfin, c'est une entreprise en pleine croissance. Il me semble, genre 12 postes ouverts en ce moment, alors que, bon, techniquement, on est en crise, mais ça se passe bien. Hein, on a su saisir les opportunités. Et ben, surtout une aventure humaine et tout ça alors que j'avais vraiment postulé en mode YOLO, YOLO en février 2020, qui paraît déjà très loin.
C'est génial, Claire. Merci, merci beaucoup. Je trouve que ça donne vraiment une belle, très belle description de ton parcours et un très beau parcours. Bon, là, ça n'engage que moi. J'invite évidemment... les personnes présentes à réagir, à poser vos questions, que ce soit par le chat ou à l'oral, puisqu'on est, on est peu nombreux, donc ce sera sûrement un peu plus convivial de le faire à l'oral, mais on peut comprendre que tout le monde n'est pas à l'aise. En attendant, peut-être que quelques questions arrivent. Moi, je t'en pose une, Claire. Alors, je trouve dans tout ce que tu nous racontes, il y a beaucoup de choses hyper importantes qui ressortent. Le fait d'accepter de se tromper, de tester des choses, de pas se mettre la pression, de bien se connaître pour savoir reconnaître une entreprise avec laquelle ça va bien fitter, bah, être capable de la repérer en fait quand elle passe. Est-ce que tu as des conseils, toi, comment tu as fait, en fait, pour bien te connaître, pour bien t'écouter, pour savoir que là, ça pouvait fitter, que ça pouvait fonctionner, et à l'inverse, puisque dans ton parcours, il y a aussi des entreprises avec lesquelles ça a moins matché. Comment on fait pour bien se connaître, en fait, et savoir si ça va nous correspondre ou pas?
Moi, je me connais bien, mais ce n'est pas forcément un bon conseil. C'est parce que je me pose énormément de questions sur moi, mais trop en fait. Donc, clairement, un de mes défauts, c'est que j'ai pas beaucoup confiance. Ça s'améliore avec le temps, mais j'ai pas énormément confiance en moi. Justement parce que le premier réflexe, dès que quelque chose va mal, ça va être « Claire, qu'est-ce que tu as fait de mal ?» Alors que parfois, c'est peut-être pas de ma faute, hein, mais bon, il y a beaucoup de remises en question. Mais ce qui peut être toujours intéressant, moi, je l'avais fait dans le cadre pour préparer les entretiens de recrutement, c'est de demander à tes amis ce qu'ils pensent de toi. Tes questions, genre si tu veux me résumer en un mot, ou selon toi, c'est quoi mes plus grandes qualités, c'est quoi mes défauts ou mes faiblesses. Parce que le regard extérieur est toujours très illuminant et va toujours apporter plus que toi. Moi, dans mon cas, par exemple, vu que j'ai tendance à plutôt mettre une lumière négative sur moi-même, ben, ça peut faire du bien d'avoir une source extérieure qui dit « Mais non, Claire, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. » Et ça, c'est peut-être un peu moins bien, mais de toute façon, au moins tu sais sur le… Enfin, peut-être ça peut aussi mettre en lumière des choses dont tu n'étais pas conscient et que tu peux améliorer. Ça rejoint le fait d'en parler. Moi, je savais qu'à l'époque, j'avais vu une psy, juste une séance, mais une séance qui m'avait fait énormément de bien. Puis après elle a déménagé, j'étais trop deg mais parce que je m'étais beaucoup dévoilée et entre autres j'avais dit que et que je le vivais très mal, je suis une personne très sensible qui pleure très facilement et c'était la première personne à me dire mais c'est pas grave en fait, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très sensible et que c'est une force en fait, faut le voir comme… Bon, pas le fait de pleurer, hein, mais je veux dire le fait d'être sensible, il faut le voir comme une force parce que vous pouvez ressentir les choses plus fortement, vous pouvez ressentir les sentiments des autres plus fortement, avoir cette empathie-là. En parlant de changement de perspective et de parler à d'autres personnes, c'était très très puissant comme moment. En termes d'outils, et là, c'est quelque chose que j'ai découvert chez Fonction Support. On en avait parlé avec Angéline et Apolline, c'est les 12 valeurs de Shalom Schwartz. En gros, c'est 12 valeurs universelles qui sont pas communes à toutes les personnes, mais en tout cas, toute personne pourrait se retrouver dans 3-4 de ces valeurs. Donc, des valeurs comme l'hédonisme, l'universalisme, la tradition, les coutumes, je les ai pas toutes en tête. Enfin, oui, la stimulation. Enfin, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Et le fait de se poser ces questions-là, ça permet, ouais, c'est un outil en tout cas qui peut permettre de mieux se connaître et mieux savoir. En gros, si l'entreprise en face a les mêmes valeurs, ça peut matcher. Après, j'irai un peu plus loin et dire c'est pas parce que si tu as un petit doute sur l'entreprise et que tu es en processus de recrutement, il faut quand même avancer. Et puis au pire, il y a une offre d'emploi et tu te rends compte que non, ça le fait pas, ou bien tu as des doutes, mais tu n'as rien d'autre à côté, donc vas-y, franchement. Si on retombe sur le thème de on peut faire des erreurs, on en avait parlé, aujourd'hui on n'est plus sur le modèle d'avant où tu te lançais dans une entreprise paternaliste et puis tu restais dans cette entreprise à vie. Donc la période d'essai, elle est faite pour ça, elle est faite des deux côtés. L'entreprise, elle l'a mise en place pour tester, voir si tu conviens en poste, mais toi aussi il faut le voir en fait, est-ce que l'entreprise me convient, et si elle ne convient pas, c'est très facile de démissionner pendant une période d'essai.
Et pas hésiter.
Il faut tester, il faut oser.
Est-ce qu'il y a des questions du côté de Sabrina, Estelle ? Moi, il y a une question que je me pose, c'est typiquement entre la Claire d'aujourd'hui et la Claire d'il y a 2 ans. Alors, c'est une question un peu double. C'est quel regard, toi, tu portes aujourd'hui sur cette succession d'expériences que tu as pu accumuler sur ça dépend des perspectives. On peut dire un temps court, mais 2 ans de vie pro, c'est déjà pas mal. Donc, quel regard tu portes sur ça? Et puis, qu'est-ce que tu dirais à la Claire de fin de diplôme?
Déjà 2 ans, clairement 2 ans, c'est la majorité de ma vie pro, donc on va dire relativement, c'est plutôt long. Moi, j'ai une philosophie dans la vie qui est beaucoup plus facile à dire qu'à appliquer. C'est de jamais regretter. Jamais regretter parce que c'est juste du temps perdu de ruminer sur quelque chose qui est déjà fait et que tu pourras pas changer de toute façon. Je dis que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est des émotions, quoi. C'est toujours dur à gérer ses propres émotions. Mais du coup, je ne regrette pas mon parcours, en tout cas, même si je considère qu'il y a des moments, qui auraient pu être mieux. Enfin, je parlais du fait de pleurer. Il y a eu des moments où j'ai pleuré, effectivement. C'est humain, c'est normal. Moi, ce que je lui dirais, si c'était à refaire, je lui dirais de moins être bornée quand même sur le fait de quitter Lyon, de ne pas vouloir faire du conseil, de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un conseil que je lui donnerais. Après, comment dire, si j'en suis là aujourd'hui, c'est quand même que par le parcours que j'ai fait, même s'il n'était pas forcément choisi en tout point. Donc, c'est pas une question. C'est pas une question facile. Parce que je ne sais pas si je serais capable de me donner ces conseils-là aujourd'hui si je n'avais pas fait ce que j'avais fait.
C'est ça, c'est ça. Ça te constitue, ça te construit, évidemment. Ouais.
Donc, si j'avais fait autre chose, j'aurais juste découvert autre chose. J'aurais peut-être été légèrement différente. Qui sait? Qui sait?
Tu aurais grandi autrement, comme tu me l'avais dit à l'heure.
J'aurais grandi autrement. Mais t'as une bonne mémoire. Moi, je me souvenais même pas d'avoir dit ça. Mais j'aurais grandi autrement. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis droit dans mes potes. Je suis bien. Donc, j'ai pas de regrets, en tout cas. Donc, à la limite, je lui dirais, ouais, c'est bien. Vas-y. Fonce dans le mur.
Fonce, il n'y aura rien à regretter.
Et est-ce que, parce que tu disais au début que tu as eu ce sentiment de te fermer des portes en fait à la sortie de ton diplôme, de devoir faire des choix, maintenant dès que tu es confronté à des choix, tu as changé. Est-ce que tu as encore ce sentiment-là de chaque choix que tu fais, c'est une porte que tu te fermes, ou tu as complètement changé de perspective, comme tu le disais, et c'est plus du tout le sentiment que tu as aujourd'hui?
Ouais, c'est plus en mode chaque choix que je fais est une opportunité. Forcément, quand tu fais un choix, tu fermes une porte par définition. Mais en fait, si je détourne la question, pour moi, ce qui est pire, c'est de ne pas faire de choix et de rester inactif. C'est-à-dire que si tu fais un choix, c'est qu'à un moment, la situation, faut qu'elle change. C'est-à-dire là, j'ai fait le choix de démissionner en plein confinement. Démissionner en plein confinement pour rejoindre notre entreprise, c'était un choix risqué. Mais si je ne le faisais pas, enfin l'inaction, c'est un choix aussi, hein, finalement, je dis n'importe quoi. Mais si je ne le faisais pas, je serais restée dans une entreprise qui ne me correspondait pas, dans une situation, enfin l'intercontrat, franchement, intellectuellement, c'est vraiment la mort. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien, et ça, c'est quelque chose qui ne me convenait pas non plus. C'était un risque. Peut-être que ça aurait pas payé. Bon, j'ai eu de la chance, ça a payé. Mais faut voir parce que là, j'ai des potes qui sont dans des situations professionnelles aujourd'hui elles sont malheureuses, ça leur convient pas. Mais il y a en pleine crise de Covid, elles se disent je peux pas démissionner maintenant en fait. Et clairement, qu'on soit clair, moi j'aurais pas démissionné si j'avais pas un poste derrière. Hein. Donc j'ai divagué complètement. Mais clairement aujourd'hui, en tout cas le fait de faire un choix, je le vis beaucoup moins mal.
Non, merci, ouais, c'était très clair comme réponse.
Non, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que c'est toute une question de comment tu vois les choses. Parce que si tu dis si je fais ça, mais en même temps, c'est le FOMO, le fear of missing out. Je l'ai de moins en moins, mais je l'avais beaucoup avant. C'est dit, mais si je fais ça, peut-être que l'autre option c'est mieux. Mais enfin, oui, mais la pire option c'est de rester là où t'es en fait. Donc, donc ça, si tu prends la pilule verte ou la pilule, non, c'est quoi Matrix déjà, la pilule rouge ou la pilule bleue, et puis tu verras bien. Ce dont il faut être conscient aussi, c'est qu'on est jeune, on a le temps de se tromper aussi. Et comment dire, c'est pas grave. J'ai horreur de dire ça parce qu'on le voit souvent sur les posts LinkedIn de gourous un peu en mode moi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à tous les échecs dont j'ai pu me remonter. Enfin, mais là où ils ont raison, c'est pas le fait de d'échouer qui fait que tu réussis, mais c'est le fait de comment tu, ce que tu en fais de cet échec. C'est-à-dire, si tu es su échec après échec, mais que tu répètes la même erreur, en fait, bah, t'as rien appris et non, ça, là, tu lances dans la mauvaise voie. Mais si au contraire, tu te plantes et tu dis, ah, bah, c'est à cause de ça, ou bien, ah, bah, tiens, j'en retire cette leçon-là. Ben, au fond, c'est une erreur qui a été constructive et qui t'a permis d'avancer. Donc oui, au pire, tu fais un mauvais choix, mais un mauvais choix pour toi maintenant. Mais qui sera peut-être bien plus tard.
Ouais, carrément.
Je ne sais pas si on a le temps peut-être pour une dernière question. Claire, tu nous as parlé de deux, trois ressources déjà, notamment l'APEC que tu as utilisé justement à la fin du diplôme, au début de tes recherches. Tu nous as parlé des 12 valeurs aussi. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu souhaiterais nous partager qui ont pu t'aider à ce moment-là ou que tu as découvertes depuis et vers lesquelles tu voudrais nous rediriger pour nous inspirer?
Sur le plan personnel, y a une série télé et un illustrateur que j'aime beaucoup. La série télé, elle s'appelle Crazy Ex-Girlfriend et le dessinateur s'appelle Théo Grosjean. Et en fait, pour faire très court, tu te sens beaucoup moins seul quand tu regardes ça parce que c'est des personnes avec des problèmes, je vais pas dire des problèmes mentaux, mais des problèmes d'anxiété, des soucis. Un peu exagéré bien sûr parce que c'est des créations à but humoristique, mais ouais, c'est des petites angoisses ou des grosses angoisses si tu dis ah ouais en fait si cette personne en parle et tu vois aussi la réaction des gens qui regardent le même contenu, tu dis en fait on est plein Bon, je vais dire, je pense pas que ce soit le cas de personne qui t'écoute, mais si t'as pas d'amis ou si t'as pas de famille, sache que tu n'es pas seul en tout cas. que tu n'es pas seul. Et voilà, c'est des ressources. Enfin, déjà, ça fait rire quand t'es un peu triste. Et puis, franchement, c'est très, très illuminant. Sur le plan plus professionnel, c'est un livre que j'avais lu dans le cadre de l'EM Lyon. Donc, peut-être que les personnes qui écoutent l'auront déjà lu, mais pour les personnes qui écoutent, potentiellement, qui ne sont pas de l'EM, ça s'appelle « La fin du management » par Gary Hamel. Et en gros, c'est un bouquin qui date des années 90, je pense, mais qui est toujours, qui a pas mal vieilli. Et en gros, il parle des différentes méthodes de management, la méthode de management telle qu'on la connaît un peu, genre le N, N plus 1, N plus 2, N plus 3, un peu classique, un peu archaïque du coup, et les nouvelles méthodes de management plus libérées. Et autant, ça apportera pas forcément de clés sur l'entreprise, comment dire, ça portera pas forcément de clé sur quel type d'entreprise tu veux, mais autant une fois que tu seras en contact avec une entreprise, ça pourra donner des clés de lecture sur leur méthode management, donner des clés, des billes sur les questions que tu pourrais poser.
Tu en as retenu quelques-unes, toi ?
Bah, par exemple, ils prennent l'exemple de Google. Ils disent que dans Google, leur méthode de management, c'est qu'ils donnent 20% du temps en mode temps libre sur des projets. Bon, des projets pour l'entreprise, mais en gros, 80% du temps, c'est vous faites ce que vous êtes censé faire et 20% du temps, c'est vous avez les ressources de l'entreprise, éclatez-vous et à skip. C'est comme ça que j'ai mal aîné. Mais selon le bouquin, c'est comme ça que j'ai mal aîné. Mais il y a des choses qui paraissent un peu évidentes, mais moi, ça m'a vraiment permis d'illuminer le fait que oui, les méthodes de management archaïques qu'ils dénoncent en quelque sorte, moi, je le voyais dans l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance. Donc, au-delà de l'orientation professionnelle, je pense qu'en tant que potentiel futur manager, c'est un livre qui est super important à lire. Parce que oui, un management, ça va dans les deux sens. Aussi savoir comment on aime être managé.
Oui, carrément. Et puis, ce n'est pas forcément les premières questions peut-être qu'on se pose, qui vont avec aussi dans quel environnement de travail, comme tu disais toi, entre les valeurs, par exemple, dans lesquelles tu t'es reconnu, ou des modes de fonctionnement qui vont être importants pour toi, sur l'équilibre des pro-vie perso, etc. Et finalement, c'est vrai, ça, par exemple, toi, tu les as eues après, mais est-ce que c'est déjà des questions que tu te posais sur ton tout premier job, quand tu cherchais ton tout premier job? Est-ce que tu arrivais déjà à te poser ces questions-là?
Sur le management, oui. Mais ça, c'est tout simplement, c'était mon mémoire de fin d'études. Il y a une stat, je ne sais plus combien, mais l'écrasante majorité des départs volontaires se font à cause du management. Donc, si tu n'aimes pas ton manager, tu te casses. Donc, la qualité du management, ça fait, en tout cas en entreprise, ça fait tout, ça change tout, parce que suffit que tu ne t'entendes pas avec ton manager, ou suffit qu'il te micromanage et que tu n'aimes pas ça, ou suffit qu'il te laisse complètement de côté, alors que juste, au contraire, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être contrôlé quelque part, sinon tu pars en vrille, c'est super important. Donc pour moi, ça peut être une question qui se pose. Si tu as en entretien ton futur manager, potentiel futur manager devant toi, c'est quoi votre style de management? Ça peut révéler beaucoup de choses.
Allô, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Depuis tout à l'heure, j'essaye, jamais de casse, ça ne marche pas. Moi, j'ai juste une dernière question, si tu as un peu le temps. Est-ce que, par rapport à l'EM, est-ce que tu sens que tu as été bien préparée à affronter ces questions justement et ces réflexions? Ou tu penses que... Enfin, qu'est-ce qui pour toi aurait pu t'aider à... Alors, pas... J'appellerais pas ça à... Comme tu dis, quand tu es resté longtemps au chômage parce que tu savais pas trop quoi faire. Est-ce que tu penses que dans ton éducation secondaire, il y aurait pu avoir des outils qu'on aurait pu te donner ou des choses comme ça qui t'auraient aidé à... trouver ta voie plus vite ou à trouver une entreprise qui te correspondait plus vite, peut-être?
L'enregistre. Non, je plaisante. moi, c'était particulier parce que, en fait, Company Inside, quand moi, je me suis lancée dedans, je faisais partie de la première promo, donc on était un peu la promo cobaye, où on a eu tous les succès, les premiers succès et tous les premiers échecs. Et en fait, ce qu'il faut être conscient avec ça, c'est qu'en fait, Company Inside, on est étudiant de l'EM en contrat avec Adecco, en mission dans une entreprise tierce. Donc, ça faisait trois interlocuteurs. Je dis ça parce que je trouve que ça n'avait pas été très bien géré, mais en même temps, la situation faisait que c'était compliqué de bien gérer pour une première fois. Enfin, je suis complètement compréhensif sur le fait que c'était une découverte pour eux aussi, c'était une aventure pour eux aussi. Donc forcément, il y allait y avoir des cafouillages. Mais c'est vrai que du coup, du point de vue de l'EM Lyon, je pense qu'il y avait à la fois l'intérêt des étudiants à défendre, mais aussi l'intérêt des entreprises partenaires. Et par moment, mais ça c'est uniquement mon ressenti, tu sentais que l'intérêt des entreprises primait un peu plus. Donc oui, on était écoutés, on était écoutés, mais sur l'accompagnement, je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Après, pour nuancer, le but de ce programme, c'était aussi de faire l'alternance dans l'entreprise et de rester après le diplôme. Donc, normalement, il n'y avait pas vocation non plus à avoir un accompagnement particulièrement poussé pour trouver sa voie, parce que, en théorie, on l'a déjà trouvé.
D'accord.
La plupart des gens ne sont pas restés dans l'entreprise. Mais encore une fois, c'était une première promotion. Donc, je dis la plupart des gens, il y en a qui sont restés et qui sont encore dans l'entreprise dans laquelle ils étaient. Donc, moi, ça n'a pas été mon cas. Et du coup, pour ceux qui hésiteraient à faire Compagnie Insight, franchement, si tu as un projet clair, mais c'est trop bien comme programme, parce que ça te permet de prendre de l'avance, ça te permet de découvrir le monde pro beaucoup plus tôt. Et ça te permet aussi de pas avoir à payer 2 années de scolarité à l'EM Lyon, ce qui est fou. Mais si tu es un peu perdu comme je l'étais, je regrette pas encore une fois, mais c'est vrai qu'avec du recul, enfin si c'était à refaire avec ce que je sais aujourd'hui, comme dans un jeu vidéo où tu peux reset, c'est vrai que ce serait intéressant. Moi, je trouverais ça intéressant de voir où ça m'aurait mené de faire le parcours que j'avais prévu initialement, à savoir continuer à la RH et faire un parcours EM Lyon droit, licence et master en droit. Je sais pas où, peut-être ça m'aurait mené au même endroit, mais encore une fois, je ne regrette pas. je ne regrette pas, mais c'est vrai, niveau accompagnement, je pense pas que ce soit la meilleure option à prendre. Si on ne sait pas ce qu'on veut.
Après, ma question, c'était pas forcément sur Compagnie Inside, mais c'était plus en général l'école telle. Et c'est vrai que vous êtes des promos un peu à part à Compagnie Inside parce que vous êtes ensemble, un petit groupe.
Ouais, du coup, on était 1 semaine sur 5 à l'EM Lyon, notre petit groupe de 8 personnes. Du coup, c'était top pour les cours. Enfin, on était obligés de suivre parce que si on a un qui ne suit pas, ça se remarque immédiatement. Et ouais, ça permettait. Après, ce qui est cool, c'est qu'au moins, on était 8 à un peu se traverser les mêmes galères. Et on était une bonne moitié à être paumés aussi. Mais bon.
Merci.
Beaucoup, merci Claire. Ben, je pense qu'on arrive à la fin du format. Est-ce que tu aurais un message, un dernier petit mot que tu voudrais adresser aux gens qui nous écoutent là et qui nous écouteront peut-être dans l'enregistrement avant qu'on te dise, avant qu'on te libère?
Pour moi, c'est qu'il n'y a pas de parcours type et pas de parcours parfait. L'essentiel, quand on avance, c'est de rester bien se connaître et de rester fidèle à soi-même. Enfin, c'est comme ça que moi je vois les choses et c'est comme ça que je suis contente en tout cas.
Mais c'est ça qui nous intéresse. Écoute, merci beaucoup Claire. Joséphine, tu veux ajouter quelque chose ou...
Je vois plus sur... Ah voilà, de retour. Non, merci beaucoup, c'est hyper inspirant et je pense que ça peut effectivement, quand on se pose plein de questions, qu'on est dans le doute, ça peut vraiment, il y a un côté très rassurant, il fait presque de méditation de ton partage, donc merci beaucoup pour ça. Et puis...
Et voilà, on arrive au bout de cette rencontre au bord du bassin. Merci à toi de l'avoir écouté et merci à toi Claire de t'être joint à nous. J'espère que ça t'aura aidé et que toi aussi tu te sentiras un peu plus outillée pour pouvoir te lancer dans le grand bain de l'orientation. En attendant, on se retrouve sur notre newsletter ou bien sur notre groupe Facebook où on continue à creuser tous ces sujets. À bientôt !